dans notre vie, tout n'est pas forcément toujours comme on le souhaiterait. Et du coup, quelquefois, on peut se poser des questions par rapport à notre foi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette foi? Est-ce qu'on ne sait pas comment on met pas notre foi en pratique? Enfin, on peut quelquefois avoir des doutes ou même un peu de culpabilité en disant, mais alors c'est que je dois manquer de foi. Ou, enfin, on peut se poser toutes ces questions-là. Et donc, je vous propose qu'on regarde quelques passages. De façon caricaturale, quelquefois on peut avoir une mauvaise idée de la foi comme un peu un outil pour obtenir ce qu'on veut. Et je sais que j'avais lu un petit ouvrage amusant qui caricaturait un peu les réflexions des chrétiens. Et donc la personne était allée chercher un livre à la librairie chrétienne qui parlait de la foi. Et puis donc il venait de lire ce livre et il était tout content. Et le livre disait que si on avait de la foi, on pouvait déplacer les montagnes, qu'il fallait s'entraîner progressivement, etc. Et il essayait de s'entraîner. Il commençait par se dire, je vais essayer de déplacer un trombone d'abord. Et il priait très très fort pour déplacer son trombone. Et il ne comprenait pas. Et au bout de 3 jours, il était complètement catastrophé parce qu'il disait, mais si Jésus a dit que si on avait de la foi comme un grain de senevé, on pouvait déplacer les montagnes, alors vraiment, je n'ai pas beaucoup de foi parce que même mon trombone, il ne bouge pas. C'est une caricature, mais quelquefois, on est un chouïa comme ça dans notre cœur. Et donc... On sait que quand on prie, quand on réfléchit avec Dieu, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut avoir foi et prier avec foi quand on sait que c'est la volonté de Dieu. Donc ça, à la limite, c'est la situation la plus facile, entre guillemets, où on sait qu'on s'appuie sur les promesses de Dieu. Donc on va peut-être commencer par là. C'est en quelque sorte la situation où on est la plus à l'aise parce qu'on a une... On s'appuie sur une promesse qui est dans la parole. On a une conviction claire. On sait que c'est la volonté de Dieu et donc on peut prier et mettre vraiment exercer notre foi, dire Seigneur, je sais que c'est quelque chose que tu veux, qui est selon ton cœur, donc je te demande de le faire. Et on peut regarder en Daniel chapitre 9. Donc Daniel chapitre 9, c'est toute la prière de Daniel quand donc lui est depuis pas mal d'années déjà à Babylone en captivité et il voit les promesses qui ont été faites par Dieu à Jérémie pour le peuple et il voit que les temps arrivent où Dieu va intervenir, va libérer son peuple. Et donc il prie en fonction de ses promesses. Donc on peut lire les premiers versets puis quelques autres versets. Donc début du chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et un petit peu plus loin, donc Daniel reconnaît dans sa prière que ce qui est arrivé a été permis par Dieu parce que c'était un châtiment de Dieu compte tenu de ce qu'avait fait le peuple. Et il reconnaît que Dieu a eu raison dans tout ce qu'il a fait. Donc on voit notamment verset 14, l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Donc vraiment il reconnaît les torts qui ont été commis et il dit que Dieu a été juste, donc il confesse le caractère de Dieu, que c'était pas que Dieu était méchant, c'est que Dieu était juste dans ce qui est arrivé. Et ensuite, versets 16 à 19, il continue à prier et il dit « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et Daniel ne prie pas en disant bah maintenant tu nous as fait tellement, finalement tu nous as tellement châtié pendant 70 ans, maintenant c'est il faut que tu fasses quelque chose. Non, il prie au nom de la compassion de Dieu. Il prie pas au nom des souffrances passées. Il n'estime pas que parce que le peuple a souffert pendant 70 ans, maintenant il a le droit à une délivrance. Il prie à cause des compassions de Dieu. On le voit à plusieurs reprises, notamment verset 18, ce n'est pas à cause de notre justice, parce qu'on n'a pas de justice et on n'a pas de mérite, mais c'est à cause des compassions de Dieu qu'il prie, parce qu'il sait que Dieu a fait cette promesse parce qu'il aime son peuple, parce qu'il a envie d'amener une restauration. Et donc c'est ça notre confiance quand on prie, même si on a reçu une promesse de Dieu, on ne prie pas parce qu'on mérite de recevoir l'accomplissement de cette promesse, parce qu'on la mérite jamais. On prie parce qu'on sait que Dieu nous aime, et Dieu est plein de compassion, et c'est le caractère de Dieu. Et donc on peut prier en vertu de son caractère. Et à deux reprises, il dit pour l'amour du Seigneur ou par amour pour toi, ô mon Dieu. Donc, et littéralement, c'est en fait à cause de toi, Seigneur, ou à cause de toi, mon Dieu. En fait, il dit qu'il demande quelque chose, pas à cause d'eux, pas à cause de lui. Il se prévaut pas de ce que lui, parce qu'à la limite, Daniel, lui, il avait pas péché. Enfin, c'est quelqu'un qui était un homme pécheur, mais il était resté fidèle globalement à Dieu. Mais il se prévaut pas de ça parce qu'il sait que de toute façon, ça n'a aucune, même sa relative droiture devant Dieu. C'est pas ça qui peut lui attirer les faveurs de Dieu. Donc il prie uniquement à cause du caractère de Dieu et il dit mais à cause de toi, je te prie. Et donc littéralement c'est à cause de toi, mon Dieu, à cause de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut prier le Père à cause de l'amour qu'il porte à Jésus-Christ. On peut venir au Père en disant, mais par exemple, quand on prie pour une personne, en disant, mais Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne parce que je sais que tu l'as aimée au point que tu as accepté que ton fils aille à la croix pour elle. Et c'est en vertu de cet amour-là que je te prie, c'est en vertu de ce que tu as fait. Et je sais que c'est ton cœur de compassion. Et donc, c'est pour ça que je viens avec assurance devant toi, avec foi, devant toi, en te priant, parce que je sais que tu l'as aimé à ce point, donc je te demande vraiment d'intervenir dans la vie de telle personne. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on voit en Jean 14, versets 13 et 14, que Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et en fait, « en mon nom », ça veut dire « de ma part ». C'est, je ne sais pas si dans des administrations ou des grandes entreprises, c'est pas, par exemple dans une entreprise, c'est pas tous les actionnaires de l'assemblée générale qui vont à chaque fois prendre des décisions pour la gestion de l'entreprise. Ça va être le directeur, mais il va parler au nom de la société et il va engager le nom de la société. Et s'il signe un contrat, il le signe au nom de la société. Et donc il a une délégation de pouvoir en vertu de laquelle il peut engager la société, et c'est valable vis-à-vis de l'extérieur. Alors après, s'il a fait n'importe quoi, les actionnaires peuvent le démettre éventuellement, ou dans un ministère, c'est pareil, le ministre va pas tout signer, mais quelquefois c'est quelqu'un qui travaille, qui est un proche collaborateur, qui va signer pour le ministre, parce qu'il a une délégation, et il va engager la signature du ministre, c'est exactement comme si c'était le ministre qui signait, juridiquement. Et en fait, Jésus nous a délégué une autorité. Maintenant, il nous permet de se présenter au Père en son nom. Donc ça veut dire que on peut demander les choses de sa part, comme si c'était lui qui les demandait, mais simplement il faut pas qu'on soit des usurpateurs, puisque là on utilise le nom de Christ quand on demande des choses comme ça au Père. Donc si on demande quelque chose qui n'est pas selon le caractère de Jésus, en fait on usurpe son nom et on usurpe une autorité qu'on n'a pas, puisqu'il nous a donné cette autorité en vertu de qui il est. Mais on peut en fait demander les choses de sa part en sachant que c'est parce que c'est en vertu de son caractère. Et on voit aussi la prière du pharisien et du publicain en Luc, où le pharisien se présente à Dieu en vertu de ce qu'il a fait lui-même, parce que il sait qu'il est, il jeûne, il prie, il donne sa dîme, etc. Et il vient devant Dieu en vertu de ça. Mais en réalité, même si le pharisien pouvait s'appuyer sur la parole de Dieu, sur des promesses, etc. Il ne pouvait pas recevoir quoi que ce soit de Dieu en vertu de son propre, de ses propres œuvres, de ce qu'il avait fait. Il ne pouvait recevoir des choses qu'en vertu de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que le publicain, lui, qui s'est adressé à Dieu en vertu du caractère de Dieu, est reparti pardonné chez lui, alors que le pharisien n'a pas eu de relation avec Dieu. Donc, quand on, même si on a la certitude qu'on est dans la volonté de Dieu et que ce qu'on demande c'est en vertu de ce qu'il veut, que c'est sur le fondement d'une promesse qui nous est faite dans la Bible, où vraiment on n'a pas de doute que c'est vraiment la volonté de Dieu, même dans ces cas-là, on s'adresse à Dieu en ayant foi en son caractère. On n'a pas foi dans le fait qu'on est un bon chrétien qui connaît la parole, qui connaît les promesses, etc. De toute façon, c'est parce qu'on a foi dans la bonté, dans la miséricorde de Dieu, qu'on peut lui demander d'accomplir ses promesses. Et d'une certaine façon, on pourrait se demander, mais alors si c'est de toute façon la volonté de Dieu, à quoi ça sert que je m'adresse à Dieu ? Mais quand on voit Daniel qui a prié Dieu parce qu'il avait vu que le temps de la délivrance allait approcher, ben, il a passé plusieurs jours dans la présence de Dieu, et à la fin, Dieu l'a visité par l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer des choses. Et donc, c'est un moment de communion profonde avec Dieu où on sait que c'est selon sa volonté, mais on sait en même temps que Dieu se plaît à ce qu'on puisse parler avec lui et à lui dire, mais Seigneur, j'ai confiance, je crois ce que tu as dit, je crois tes promesses et je sais que tu vas les accomplir parce que c'est ton caractère de les accomplir, et je te prie en fonction de ta miséricorde. Et donc c'est un peu un mystère, parce que d'un côté on pourrait se dire, si Dieu a promis, forcément il va l'accomplir, donc c'est pas la peine de prier, et en même temps on sait que Dieu se plaît à ce que ses enfants saisissent ses promesses et lui demandent de les accomplir parce qu'ils manifestent ainsi leur foi en Dieu. Alors, bon, là, c'est quand on peut s'appuyer vraiment sur une promesse. Il y a des moments où on est un peu dans le brouillard parce qu'on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Ou alors, on peut croire avoir reçu une promesse de Dieu et en fait se tromper, parce qu'on peut être subjective et quelquefois prendre un peu nos désirs pour des réalités. Ou alors, on a reçu une promesse, mais on veut tellement fort que ce soit pour tout de suite qu'on s'imagine que ça doit être forcément pour maintenant, alors peut-être que c'est pour plus tard. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que certaines personnes qui ont eu la foi, qui ont cru dans les promesses, n'ont pas vu l'accomplissement des promesses sur la terre. On voit en Hébreux 11, à partir du verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres, sous-entendu au contraire, furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Tous les versets qui suivent énumèrent toutes les personnes qui ont été torturées, qui ont subi qui sont allées jusqu'à la mort sans avoir l'accomplissement matériel sur la terre des promesses que Dieu avait fait. Et ensuite, verset 39, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, sous-entendu, ils n'ont pas obtenu, pendant qu'ils étaient sur terre, ce qui leur a été promis. Donc, ils ont vécu en mettant leur foi dans des promesses, mais ils sont morts avant d'en avoir vu l'accomplissement concret. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de juifs pieux qui ont cru que le Messie allait venir. Ça a été vraiment leur espérance. Ils n'ont pas vu, ils sont morts avant que le Messie ne vienne. Et puis, Abraham, lui, avait eu la promesse que de son sein naîtrait un peuple nombreux. Il a vu la naissance d'Isaac, mais ce n'était pas encore un peuple nombreux. Donc, il y a des choses qu'il a saisies par la foi, sans les voir physiquement, concrètement. Et il n'a eu la réponse que plus tard. Et c'est vrai que quelquefois, on se pose des questions. On ne sait pas trop comment prier quand on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup pensé pendant ces dernières semaines, parce que mes parents ont des amis qui ont un fils de 30 ans qui a une leucémie et qui est là. S'il n'y a pas de miracle, c'est les derniers jours, quoi. La greffe n'a pas pris, donc médicalement, il n'y a plus d'espoir. Donc, bon, on en a parlé, on a pas mal discuté de ça. Et il y a un passage qui m'aide énormément et qui est vraiment, je trouve, très, très instructif sur la façon dont on peut prier quand on... On ne sait pas complètement ce que Dieu veut. On sait qu'on peut prier, bon, dans un cas de maladie, Dieu nous encourage à prier pour les malades. En même temps, on ne sait pas. Dans certains cas, on peut avoir une ferme conviction, on peut avoir reçu une promesse de Dieu. Puis dans d'autres cas, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Et c'est à nouveau dans Daniel. En Daniel 3, c'est les trois compagnons de Daniel qui n'ont pas voulu s'incliner devant la statue faite par le roi Nebuchadnezzar et qui vont être jetés dans la fournaise. Et donc, à partir du verset 13, on peut regarder. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et en fait, dans la réponse des trois jeunes Hébreux, il y a trois choses différentes. Il y a tout d'abord la confession de la puissance de Dieu. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils ne savent pas si Dieu va faire un miracle, mais ils confessent que Dieu a le pouvoir de faire un miracle et ils disent au roi: Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Nous savons que c'est le Dieu de l'univers qui a la toute puissance et qui peut le faire. On voit d'ailleurs d'autres passages où... des personnes s'adressent à Jésus de cette façon-là. Par exemple, le lépreux qui vient à Jésus en Matthieu 8, 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et donc, c'est vraiment la foi que, même si je ne sais pas ce que Dieu va faire parce que j'ai pas eu de révélation particulière, je sais que Dieu est tout-puissant et Dieu peut le faire. Et de toute façon, quand nous savons quand on est dans une situation difficile, Dieu est avec nous et il se plaît à ce qu'on répande notre cœur, à ce qu'on lui dise notre souffrance et qu'on lui demande d'intervenir. En Jacques 5, 13, il est dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc c'est normal et c'est tout à fait légitime de demander à Dieu d'intervenir, même pour changer les circonstances. Mais en sachant que il le fera pas forcément, mais qu'il peut le faire. La deuxième chose qu'ils disent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Là, c'est intéressant parce que c'est pas il peut, c'est il le fera. Il va nous délivrer de ta main. Et en réalité, ça sous-entend que, peut-être qu'ils mourront, mais par la mort, ils seront délivrés de la main du roi. Et le roi, finalement, n'a pas un pouvoir si important sur eux, puisque nous, en tant que chrétiens, on sait que notre vie sur terre est une partie seulement de notre existence. Et Jésus lui-même a dit, en Luc 12, 4 et 5, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » C'est dans le même passage où Jésus dit que Dieu prend soin des passereaux et qu'il sait même le nombre de cheveux sur notre tête. Et en même temps, il prévient les apôtres, dont certains sont pratiquement tous sont morts martyrs, que de façon ultime, en réalité, le pouvoir des hommes est limité, que le plus important, c'est notre âme, et sur notre âme, les hommes n'ont aucun pouvoir. Et dans la prière que Jésus nous a enseignée, il nous a dit « délivre-nous du malin ». Et en fait, c'est vrai qu'on peut être aux prises avec des circonstances difficiles, et peut-être que Dieu ne va pas retirer, ou ne pas retirer tout de suite les circonstances difficiles, mais en tout cas, il a la puissance de nous délivrer du malin. Alors, dans un cas comme celui des jeunes Hébreux, ils auraient pu avoir la délivrance par rapport au roi par la mort, qui en fait était une délivrance pour eux. Et nous, dans les circonstances, on peut, même si les circonstances sont difficiles, être délivré du diable et donc ne pas être soumis à ce que le diable, à la pression du diable, à ce que le diable voudrait nous faire. Il voudrait avoir la victoire sur nous, mais nous, on peut en aider, on en sera délivré. Enfin, Dieu nous délivre du diable si on se confie en lui, parce que le diable n'a pas d'autorité sur nous et il ne peut pas nous manipuler puisque nous appartenons à Dieu. Et puis, la troisième chose qui est très intéressante, c'est dans la réponse des Hébreux, c'est « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est-à-dire que, de toute façon, les circonstances difficiles n'auront pas la victoire. Il peut y avoir des circonstances difficiles, mais ça n'est pas ça qui m'empêchera de marcher pieusement et de continuer de placer ma foi en Dieu. Et là, c'est une déclaration qui est très, très forte qu'ils font. Et nous aussi, on a besoin de prendre des décisions et de dire, ben, peu importe les circonstances, je sais que de toute façon, Dieu m'aime, c'est quelque chose à quoi personne ne peut toucher. Et ce ne sont pas les circonstances. Les circonstances ne seront jamais une excuse dans ma vie pour pécher. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que je peux pécher, mais jamais je n'accepterai de m'abriter derrière des circonstances difficiles pour excuser mon péché. Parce que je sais que si je pêche, c'est moi qui ai péché devant Dieu et je n'ai pas d'excuse. Et donc, ce n'est pas les circonstances difficiles qui vont m'empêcher de marcher pieusement. Alors, en sachant en même temps que Dieu nous invite à prendre ce genre de résolution, un peu comme dans un mariage. Dans un mariage, lorsque traditionnellement, lorsque le marié et la mariée échangent leurs promesses, c'est dans les bons et dans les mauvais jours. Et donc, c'est un engagement qui est pris sans savoir si les circonstances sont faciles ou difficiles. Et c'est un engagement qui est pris en disant, bah, même s'il y a des circonstances difficiles, il peut y avoir un accident à l'un d'entre nous, il peut y avoir une maladie, etc., je m'engage à te rester fidèle, à t'aimer jusqu'à la fin, etc. Donc, c'est des vœux qui sont prononcés indépendamment des circonstances. Et nous, dans notre cœur, ça doit être un peu la même chose. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu que ce n'est pas les circonstances qui vont nous balloter et nous conduire à faire n'importe quoi, parce que les circonstances ne sont pas une excuse pour notre péché. Donc, il y a de notre côté une décision. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la foi dans le fait que Dieu n'amènera jamais des épreuves au-delà de nos forces. C'est-à-dire que notre part, c'est de prendre une résolution, mais en même temps, on a besoin de la foi, de savoir que c'est Dieu qui nous gardera. Parce que, d'un côté, on prend une décision, mais en même temps, on n'a pas la puissance de nous garder nous-mêmes. C'est pas notre bonne décision. Enfin, c'est, comment dire, je veux pas parler de façon inexacte, mais on a besoin de prendre des décisions, et en même temps, on n'a pas confiance en nous-mêmes pour garder nos décisions. C'est-à-dire qu'on place notre confiance en Dieu qui a le pouvoir de nous apporter la délivrance dans chacune des épreuves, de surmonter sans péché les épreuves qu'on peut rencontrer. Et donc c'est en 1 Corinthiens 10, verset 13 notamment, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et donc, quand je prends ce type de décision, en même temps, je prie Dieu en lui disant, « Eh bien, Seigneur, je te fais confiance que s'il y a des choses difficiles, tu me donneras en même temps le moyen de les surmonter et donc de réagir pieusement dans ces choses difficiles et sans péché. » Et donc, je reconnais que si je tombe, eh bien, c'est parce que... ce sera ma faute. C'est pas parce que l'épreuve aura été difficile, c'est parce que j'aurai péché devant toi. Et bon, en sachant que si on tombe, Dieu nous pardonne, il nous relève, mais en même temps, il faut qu'on soit honnête devant Dieu et pas s'abriter derrière. Derrière les circonstances. Et en Ésaïe 26, 3, il est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Alors, mon sentiment, c'est une traduction ce serait plus exact de dire « Celui qui est ferme dans ses dispositions. » Donc, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et c'est intéressant parce que le verset associe bien les deux choses. Le fait que, à la fois, on est ferme dans nos décisions et en même temps, on se confie en Dieu, que les deux vont de pair. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir la paix. Et c'est vrai que prendre une résolution devant Dieu en mettant notre confiance en lui en même temps, c'est une source de paix. Parce qu'on n'est pas sans arrêt à se poser des questions. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments où c'est un peu plus difficile, mais il y a tout un tas de questions qu'on ne se pose plus, à la limite. Et bon, je peux prendre un exemple parce qu'on est plusieurs à être concernés. Par rapport au fait d'être célibataire, ben, je sais que je peux prier comme ça. Seigneur, je sais que... Bon, si je désire être mariée, ça dépend des gens, mais... Seigneur, je sais que tu peux faire que je me marie, même si je suis dans un pays où il y a peu de chrétiens, dans une église où on n'est pas très nombreux, etc. Seigneur, je proclame que tu peux le faire, même si ça me paraît humainement pas très facile, mais toi, tu es grand, tu peux le faire. Je sais, deuxièmement, que de toute façon, tu me délivreras de ce monde et du malin, que je suis pas condamnée à être soumise aux pressions du monde peut-être me dit qu'être célibataire à tel âge, c'est ou être seule, enfin, parce que maintenant le célibat c'est pas tout à fait pareil dans le monde, mais être seule à tel âge, c'est pas normal, que voilà, donc je sais que je n'ai pas à être soumise à la pression du monde et du diable, que tu m'en délivres. Ça, tu le feras de toute façon, je ne suis pas obligée d'être soumise à ça. Et de toute façon, que je me marie ou que je ne me marie pas, Seigneur, je décide devant toi de vivre pieusement, ce ne sera pas une excuse pour faire n'importe quoi, pour aller chercher un mari pas chrétien, etc. Parce que je sais que tu me donneras la grâce jour après jour, et donc c'est toi qui me garderas, et je te fais confiance de ce que ce ne sera pas au-delà de mes forces. Et en même temps, on peut prier aussi pour se même dans des circonstances qu'on n'a pas choisies, de se régaler et dire, ben, Seigneur, voilà, c'est une décision que je prends, mais en même temps, ben, je te demande que je puisse profiter de ta présence, te connaître de plus en plus et me régaler avec toi dans cette situation. Et c'est vrai, quelquefois, on peut aussi surtout dans ce domaine-là, on peut être très subjective. Alors, je vous fais un petit. Maintenant, il y a prescription, donc je vais vous faire un tout petit aveu. Il y a donc plusieurs années, on était rue La Condamine, et j'avais commencé un petit peu à correspondre, disons, avec un ami en commençant un peu une relation. Il était à l'étranger. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit que j'étais pas complètement tranquille du fait qu'on puisse commencer une relation à distance alors que je pouvais pas voir spirituellement vraiment où il en était, puisque par les mots, enfin par les lettres, on peut dire un peu tout ce qu'on veut, mais on connaît pas forcément la vie de la personne. Et donc j'ai cassé, et c'était un samedi, et le dimanche matin, je vous donne en mille, la prédication, c'était l'ange qui venait voir Abraham et Sarah, qui disait, dans un an tu auras un enfant. Et alors, j'ai pas pris directement, hein, parce que. Mais, et en plus, ce qui était particulier, c'est que c'était pas Pasteur Michel. Normalement, c'est Pasteur Michel qui faisait Genèse à l'époque. C'était Pasteur Jean qui prêchait, parce que Pasteur Michel n'était pas là. Et d'habitude, il faisait autre chose quand Pasteur Michel n'était pas là. Et là, il avait eu à cœur de reprendre la suite de là où Pasteur Michel s'en était arrêté à Genèse. et dans mon cœur. J'étais absolument mais persuadée du coup que dans un an, Dieu me redonnerait donc la relation que j'avais dû couper. Et ça, d'une certaine façon, je me suis appuyée là-dessus. Et puis un an plus tard, pas du tout. Donc c'est vrai que quelquefois, on peut, dans des choses comme ça, être un peu subjective. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression de... c'est surtout parce que dans mes émotions, j'étais complètement chamboulée. Et donc, j'ai pris la première chose sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et à la limite, peut-être qu'à ce moment-là, Dieu m'aurait dit tout de suite, tu sais, c'est vraiment fini, définitivement. J'aurais peut-être eu du mal à supporter. Donc, quelque part... Dieu a fait un travail de guérison aussi. Je voyais pas la personne puisqu'elle était à l'étranger. Donc un an plus tard, quand je me suis rendu compte que c'était bien fini, ça a été un tout petit peu après. J'ai eu la paix et puis il n'y a pas eu de problème du tout. Mais en même temps, peut-être que, je me suis trompée dans ce cas-là, mais je sais que. L'amour de Dieu va au-delà et je pouvais m'appuyer sur Dieu et lui faire confiance parce que il maîtrisait les choses. Bon, je me suis trompée et de toute façon je pouvais pas dire que c'était. J'ai cru recevoir une parole pour moi, mais ça arrive. Et simplement, il faut savoir que on peut être subjectif, mais que l'important c'est de vraiment savoir que Dieu peut faire les choses, que Dieu nous délivre du diable et de ce monde, et que quoi qu'il arrive, nous décidons de marcher pieusement avec Christ. Et je vous le partage parce que c'est vrai qu'en tant que femme, quelquefois, on peut se faire un petit peu des idées. Et du coup, ça peut être difficile dans notre cœur parce qu'on a l'impression qu'on a eu des promesses. Du coup, on prie là-dessus, on met notre foi là-dedans. Mais notre foi, elle n'est même pas dans ce qu'on croit avoir reçu. À la limite, elle n'est même pas dans des promesses, elle est en Dieu. Et donc, c'est en Dieu qu'on place notre confiance, dans le caractère de Dieu. Et même si ce qui se passe n'est pas totalement conforme à nos attentes ou à notre imagination, et notre foi, elle est en Dieu, elle est dans le caractère de Dieu. Et l'enjeu, en fait, dans tout ce qui nous arrive et la façon dont notre foi peut être testée sur terre, c'est toujours le caractère de Dieu, en fait. Quand on regarde en Genèse 3, versets 4 et 5, qu'est-ce que dit le serpent ? Il dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le serpent, le diable, essaye, en fait, de tordre le caractère de Dieu pour Ève. Il lui dit, mais en fait, si vous ne pouvez pas manger, si Dieu vous a dit de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Dieu vous a caché quelque chose, Dieu est méchant, Dieu veut vous empêcher de connaître. Et donc, tout de suite, dès le jardin d'Éden, c'est le caractère de Dieu qui a été mis en cause. Quand on voit ensuite la façon dont Job a été tenté, c'est à nouveau le caractère de Dieu qui a été mis en cause dans la vie de Job. Quand on voit en Job 1 et 2, quand Satan vient devant Dieu, il dit... Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûre qu'il te maudit en face. Quel est le défi en quelque sorte que lance Satan ? C'est si tu enlèves à Job ce qu'il a, il va te maudire en face. Là, il te sert, etc. Ok, mais fais quelque chose contre lui, il va te maudire en face. Et qu'est-ce que fait la femme de Job aussi ? En Job 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Sa femme, même réaction, elle lui dit, mais dans ces circonstances-là, maudit Dieu et meurt, à quoi ça sert ? Et Job, lui, continue de bénir Dieu, il continue de confesser que Dieu est juste et que Dieu est bon. Donc on le voit dans les deux phases successives, la première où il perd ses biens et surtout ses enfants, en Job 1, 20-21, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et ensuite, Job 2, verset 10, pareil, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc il continue de confesser sa foi dans le caractère de Dieu qui est juste et qui est bon, indépendamment de ce qu'il peut voir. Et C'est une épreuve que Jésus-Christ a traversée lui-même. C'est-à-dire que quand il a été sur la croix, il a été. Les pharisiens aussi lui ont dit : mais si Dieu t'aime, pourquoi est-ce que descends de la croix si Dieu t'aime ? On voit en Matthieu 27, 41 et 43, à 43, pardon. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient : il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et donc, si on peut avoir des moments difficiles où on se demande pourquoi Dieu permet telle chose ou pourquoi est-ce qu'on traverse telle chose, on peut avoir cette consolation que Jésus-Christ a traversé cette tentation de se dire mais est-ce que le Père m'aime s'il me laisse, si je suis obligée de traverser ça. En tout cas, les hommes l'ont tenté en ce sens, en lui disant si Dieu l'aime, qu'il le délivre. Et quand on regarde la façon dont la foi est comparée dans le Nouveau Testament, c'est intéressant parce que en Éphésiens 6:16, on voit que on parle du bouclier de la foi. Et en 1 Thessaloniciens 5:8, de la cuirasse de la foi. Donc en fait, la foi est toujours assimilée à quelque chose qui nous protège. Et c'est vrai que nous, quelquefois, si on devait décrire la foi, peut-être qu'on la comparerait plus à un levier. C'est-à-dire on considère que la foi, c'est quelque chose qu'on met sous un truc difficile à déplacer, et puis on actionne la foi, et ça permet de lever l'obstacle. Mais en fait, c'est pas un levier qui nous est décrit dans le Nouveau Testament. C'est un bouclier ou une cuirasse. Et notamment le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et la foi, en fait, est une protection contre les attaques de l'ennemi qui essaye d'insinuer dans notre esprit que Dieu ne nous aime pas tant que ça, que Dieu n'est pas si bon que ça. Et c'est par la foi que nous résistons en confessant ce que Dieu est et ce qu'il nous dit dans sa parole. Et il y a un combat. En Luc 22, 31 et 32, Jésus prévient Simon-Pierre et le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors, cribler comme le froment, d'une certaine façon, ça veut dire que Pierre va être chahuté, secoué, parce que quand on criblait le froment, c'était qu'on le secouait pour séparer le grain de la petite enveloppe qui l'entoure. Donc, d'une certaine façon, Dieu peut aussi utiliser ça pour que le grain que nous sommes soit débarrassé en fait de tout ce qui est de la chair, mais ça va nous secouer. Mais Christ a prié pour Simon et on sait qu'il intercède pour nous aujourd'hui pour que notre foi ne défaille point, pour qu'on puisse être ferme dans la foi. Et en réalité, c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Il nous est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent rendre plaisir à Dieu, c'est notre confiance, notre foi. Puisque le mot foi, ça vient d'un verbe qui veut dire avoir confiance. C'est par notre confiance à Dieu qu'on peut l'honorer et lui être agréable. Et quand la femme et l'homme ont péché dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance à un moment donné dans la vérité de ce que Dieu leur disait, dans le caractère de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, maintenant, on est sauvés parce qu'on fait confiance, on croit en l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour marcher quotidiennement, on lui est agréable parce qu'on met notre confiance en lui et on croit ce qu'il nous dit. Et il nous est dit aussi que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé. Donc l'épreuve de notre foi a du prix. Ça n'est pas quelque chose de... c'est quelque chose qui a de la valeur. Et il nous est dit, donc en 1 Pierre 1, 6 et 7, que cette épreuve de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est vrai que le jour où on verra Christ, on n'aura plus besoin de la foi. La foi aura disparu puisqu'on le verra face à face. Mais en même temps, ce sera une récompense magnifique de le voir en pouvant se dire presque... Eh bien, tu es tel que je t'imaginais quand j'étais sur terre, parce que j'ai cru ta parole, j'ai cru tout ce qui a été dit dans ta parole de tes attributs. Et donc, quelque part, presque, qu'on puisse ne pas être surpris, d'une certaine façon, en pouvant voir Dieu véritablement quand on mourra, ce serait une magnifique récompense. Alors que si, tout d'un coup, on se disait, mais comment est-ce que j'ai pu douter, penser que tu étais méchant envers moi, ou etc. Ça doit faire drôle de voir Dieu face à face et puis tout d'un coup réaliser qu'on a pu se méprendre sur son caractère pour nous, alors que notre foi est précieuse, elle rend plaisir à Dieu. On ne comprend pas totalement pourquoi elle a besoin d'être éprouvée, d'être testée, mais on sait que de toute façon, Dieu fait les choses de façon parfaite. Il utilise les choses et pour l'avancement de son royaume, pour que d'autres personnes le connaissent, pour que nous-mêmes, on puisse le rencontrer. Et que notre foi puisse grandir de plus en plus, pour que, quelque part, on puisse le croire en qui il est, vraiment tel qu'il est de plus en plus, et qu'à la limite, on est presque pas de... Enfin, de toute façon, on sera émerveillé, ce sera au-delà de tout ce qu'on peut imaginer quand on verra Dieu face à face, mais quelque part que soit la poursuite d'une relation qu'on a avec lui aujourd'hui.